Il n'y a plus de logique, que voulez-vous ? Mais y a-t-il une logique dans l'histoire ? Monsieur Coudert, bonjour !
Il y a toujours une logique dans l'histoire, bonjour !
J'imagine. Raphaël, histoire brève, de quoi ça cause aujourd'hui ?
Nous allons parler de Ernst Jünger et Maurice Genevoix.
Ouais, que du bonheur, j'ai rien compris à ce que tu viens de dire, à tes souhaits. Question piège, dites-moi, vous connaissez hein, la bouille qu'il y a juste à côté de vous là ?
Oui, on l'a déjà vu.
Il s'en rappelle pas, mais nous, oui.
Si, je m'en rappelle, ça m'est revenu après.
Tout ça pour dire qu'on suivra votre projet avec beaucoup d'attention. Raphaël, histoire brève, t'es chaud ?
Oui, toujours.
Bah, qu'on retourne, il va, jingle.
Si tu fais pas l'histoire, c'est pas l'histoire qui va te faire.
Hein ?
Histoire brève.
Bonjour monsieur de Paris.
Bonjour monsieur Coudert.
Vous allez sans doute être frappé par ma confidence, mais sachez que dernièrement j'ai rêvé de vous.
Oh là là.
Enfin, je devrais dire que j'ai rêvé de nous.
Oh là là.
Attendez, c'est pas ce que vous croyez. Là, c'est vous qui rêvez. Non, nous avons vécu ensemble presque main dans la main une aventure que je vais maintenant vous conter. Tous deux, nous étions dans les tranchées lors de la Première Guerre mondiale et combattions côte à côte les Allemands. Vous étiez porte-drapeau et menez les assauts équipés de votre fanion que vous plantiez glorieusement sur les fossés et les trous d'obus que notre compagnie prenait. Je me rappelle notamment un épisode alors que notre officier sonnait l'attaque au point du jour. Il faisait très gris ce matin-là, mais quelques lueurs du jour parvenaient néanmoins à percer les nuages et donner à cette atmosphère si particulière des teintes rouge sang, le tout mêlé de cette nébuleuse grise qui n'appartient qu'au matin maussade.
Ah, j'y suis, hein.
Comme d'habitude, vous avez été le premier à sauter de la tranchée pour partir à l'assaut. Sous les feux nourris des Allemands qui se réveillèrent en sursaut en nous entendant. Là, j'ai une image de vous, hurlant, brandissant les couleurs de notre glorieuse patrie, votre silhouette svelte et en pleine action qui se découpait sur ce fond d'aquarelle. Mon Dieu que vous étiez beau. Nous vous suivions derrière comme nous pouvions. Certains camarades tombant sous les balles des ennemis, d'autres trébuchant dans les trous d'obus ou se faisant agripper par ces vieux barbelés roulés en boule et à moitié repris par la rouille. Mais vous, complètement insensible à toutes les peurs, à la douleur, au bruit et au fracas des bombes qui éclataient autour de nous, vous traciez notre sillon au travers de ce no man's land jusqu'à sauter par-dessus les premières tranchées adverses. Vous voyez arriver, l'écume à la bouche et vociférant des injures venant de votre pays natal que vous seul compreniez dans le régiment, les Allemands battirent en retraite, abandonnant leurs tranchées et toutes leurs armes, pleurant leur famille et leur lointaine contrée. Ah, quelle gloire! Tous les copains hurlaient de joie lorsqu'ils vous virent planter l'oriflamme dans le talus qui jouxtait la colline à l'horizon. Une percée à ce moment-là va illuminer de ses rayons chauds nos belles couleurs bleu-blanc-rouge. En y repensant, les larmes m'en montent encore aux yeux. Vous rejoignant, ils vous hissèrent de leurs bras et criaient à gorge déployée leur joie immense de vous compter en nos rangs. Quant à moi, je ne pus vous rejoindre. Un vilain shrapnel qui avait sauté devant mes pieds m'avait emporté mes bras et mes jambes. Mais je ne ressentais pas la douleur, tant j'étais heureux de vous voir au firmament. C'était si beau, si mérité, qu'il était certain que dès le lendemain vous recevriez une médaille et avec un peu de chance des nouveaux galons d'officier. Je n'avais qu'un regret, qu'il n'y ait pas eu l'équivalent d'un Delacroix ou d'un David pour immortaliser ce moment splendide. Cet instant où jamais notre nation avait été si belle. Quel symbole ça aurait pu être ? Malheureusement, je ne pus jouir davantage de ce merveilleux moment de communion. De lourds voiles noires tombèrent alors sur mes yeux et un tourbillon m'emporta visiter les tréfonds de mon âme.
Ouf.
Lorsque je me réveillais d'un long sommeil, je voyais votre visage souriant. Vous voir auprès de moi, après l'exploit réalisé la veille, m'emplit de joie. Si bien que je voulus vous serrer dans les bras. Mais la cruelle vérité se rappela alors à moi, et j'ai dû me contenter de garder mes yeux fixés sur vous. Vous posâtes délicatement votre main sur ma joue, et me réconfortâtes par des mots habiles qui agirent sur moi comme un baume miraculeux. Bon, après ça, mon rêve devint plus confus, et je me suis réveillé trempé de sueur, mais toujours habité par ces images aussi belles que terribles. Vous imaginez un héros et moi un homme tronc, m'a fait réfléchir longtemps et me tient éveillé une bonne partie de la nuit. Est-ce là une perception inconsciente que j'ai du couple que nous formons sur les antennes ? Non, je crois pas. Je crois que c'est plutôt aux images de guerre dont nous abreuve l'actualité que je dois ce songe merveilleux. Voilà comment notre réalité, même lointaine, prend parfois corps dans nos esprits. Par ailleurs, de véritables héros de la Première Guerre mondiale ont aussi laissé leur témoignage et ont pu avoir quelque influence sur mon rêve et la perception que j'avais de vous. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Maurice Genevoix, grand écrivain qui a participé à la Première Guerre mondiale de façon active jusqu'au jour où il reçut 3 balles le 25 avril 1915. 2 balles dans le bras gauche lui font perdre définitivement l'usage de sa main, et la troisième le touche au niveau de la poitrine. Il est alors soigné pendant 7 mois, mais survit grâce à sa remarquable condition physique. De ce traumatisme, il écrit plusieurs récits de guerre, dont le fameux « Ceux de 14 ». Mais sa carrière d'écrivain est loin de se limiter à ses témoignages. En 1925, son roman « Rabiolo » reçoit le prix Goncourt. En 1946, il entre dans l'Académie française, dont il devint un secrétaire perpétuel entre 1958 et 1973. Bref, on ne présente plus Maurice Genevoix, d'autant plus que ce dernier a fait son entrée en 2020 au Panthéon. Autre exemple, mais moins connu en France pour la bonne et simple raison qu'il est allemand, Ernst Jünger. Lui découvrit la guerre dans les tranchées dès 1914 et participa à toutes les grandes batailles du conflit. Verdun, la Somme, les Flandres. Il fut blessé 14 fois pendant la guerre, dont quelquefois assez gravement, notamment la dernière, puisqu'il est touché au poumon en août 1918. Mais son courage et sa détermination lui permirent d'obtenir moult décorations, dont la plus prestigieuse possible, la Croix de l'Ordre pour le Mérite. Dès 1920, il écrit son récit de guerre « Orage d'acier », un livre dont André Gide a dit « Le livre d'Ernst Jünger sur la guerre de 14, Orage d'acier, est incontestablement le plus beau livre de guerre que j'ai lu. D'une bonne foi, d'une honnêteté, d'une véracité parfaite. » La suite de la vie d'Ernst Jünger est marquée par un parti pris politique qui le place entre les anarchistes et les fascistes. Mais il se désengage totalement de la vie politique avec l'accession d'Hitler au pouvoir. Il poursuit essentiellement sa vie d'écrivain jusqu'à la fin de sa vie à plus de 100 ans. Encore aujourd'hui, Ernst Jünger, francophile, fait partie des auteurs allemands les plus traduits dans notre pays. Tous deux ont pour point commun d'avoir certes participé au même conflit, mais en ont décrit une réalité crue et véridique qui a marqué tous ceux qui les ont lus. La boucherie qui fut la Première Guerre mondiale et ses 10 millions de morts est encore aujourd'hui dans l'esprit collectif une vision d'un enfer terrestre avec son cortège de brutalité et son horizon de paysage désolé. Les survivants, les héros, nous en remportent leurs témoignages, qui devraient être pris comme autant d'alertes sur les ravages que peuvent provoquer de tels conflits. Un peu comme celui qui frappe actuellement l'Ukraine, pour des enjeux qui paraissent pourtant si dérisoires. Qu'est-ce que l'Ukraine ? Une vaste plaine fertile ponctuée de quelques gisements de gaz et d'un littoral sur la mer Noire ? La belle affaire pour un homme comme Poutine qui, sans vouloir restituer la grandeur de l'URSS, dont il méprisait l'idéal, voudrait rétablir la grande Russie des tsars. C'est peut-être ça la fameuse hubris, la folie dans des grandeurs qui poussent les gens de pouvoir à commettre les plus grandes absurdités. Mais que la France se rassure, nous avons notre anti-Poutine, il s'appelle Poutou. Que ce nom pacifiste sonne bien à nos oreilles en ces temps troubles. Je ne sais pas s'il dépassera les 1% aux prochaines présidentielles, mais en tout cas, on peut être sûr qu'il saura claquer le museau à Poutine, cette élite issue du KGB qui tient sous sa coupe l'oligarchie qui monopolise toutes les richesses offertes par le capital en Russie. Enfin, assez rêvé, monsieur de Paris. Il n'y aura pas d'affrontement Poutou-Poutine. La guerre en Ukraine risque de durer encore. Jamais la Première Guerre mondiale ne deviendra un conte de fées, et je crains qu'à aucun moment de votre vie, vous ne serez un héros de guerre. Quant à moi, ça m'arrange bien puisque je vais pouvoir sortir d'ici sur mes deux jambes, en battant la mesure de mes mains. À la prochaine.
Bravo, je sais pas par quoi commencer. Est-ce que vous aimez le chocolat ?
C'est un petit péché mignon, oui.
Parce que pas de bras.
Oui. Je l'ai fait à mon fils il y a pas longtemps. Hein.
C'est pour ce genre de chronique, Raphaël, que j'adore recevoir un message le dimanche 22h58. Vous faites ça sans aucun problème.
C'était 17h.
Là, 17h.
Démagogue.
J'étais sur le coast à ce moment-là.